de départ de Vivaldi, j'ai reçu un budget qui coule jusque le fond de la mer. C'est là, le Titanic. Donc notre effort devra être titanesque parce que l'effort de Vivaldi était titanique. Avec chaque mesure qu'on prend, on essaye de renverser la courbe et d'aller en eau avec notre sous-marin budgétaire. De dire honnêtement aux gens, oui, on doit faire un régime, quoi. Je l'ai fait moi-même, hein, parce que dans le temps, j'étais un tout petit peu gros. Mais je suis un régime, je suis beaucoup plus sain qu'il y a 10 ans. Et je suis content de l'avoir fait. Mais le processus même du régime est jamais agréable. Je vous dis, il y a déjà des montagnes de travail dans l'accord de gouvernement. C'est des cols hors catégorie qu'on doit prendre avec l'accord pour le budget pour 2026. Qu'après ces cols hors catégorie, je crains qu'on va découvrir encore un ou deux cols.
D'une part, et dont le gouvernement Arizona espère aussi des effets bénéfiques en recettes. Tout ça ne semble pas nous permettre de sortir du rouge, loin de là. Les choix du passé? Est-ce que ce sont les mesures présentes qui passent à côté de l'objectif? Est-ce le contexte international qui nous plombe? C'est à toutes ces questions.
Je dirais, c'est celle du vent de face quand on est cycliste, hein, puisqu'on a parlé cyclisme. On a des vents de face, on les connaît, c'est notamment l'effort militaire, nul besoin de s'apesantir, c'est la remontée des taux d'intérêt, c'est un petit peu moins perceptible, mais ça fait très mal également. Et puis, il y a des évolutions structurelles, du genre vieillissement démographique, si on ne fait rien en matière de retraite, la charge des retraites s'alourdit. Donc, il y a des vents contraires, et c'est pour ça que la situation empire si on ne fait rien.
Oui. Qui est que, en principe, quand c'est des beaux jours, on mettrait de côté pour faire face aux mauvais jours. Sauf que quand c'est des beaux jours, ce serait mal apprécié de la population si on n'en profitait pas pour investir, régler une série d'iniquités, etc. Donc là, c'est vrai. Par contre, il y a une série d'éléments qui ne sont pas dépendants de la Vivaldi ou de qui que ce soit. Le vieillissement de la population, le dérèglement climatique, la dépendance énergétique. Ça peut dépendre, mais alors ça dépend de nombreux gouvernements précédents qui n'auraient pas investi comme il fallait.
Donc il faut
choisir des dépenses qui rendent moins dépendants des énergies fossiles par exemple, ou investir plus dans l'éducation pour avoir plus d'effets sur l'économie. Voilà, donc c'est pas que mettre de l'argent de côté.
Diminuer dans l'urgence en 2022, il aurait été intelligent de la remonter pour pouvoir éventuellement la rebaisser si on avait eu à juger ça comme étant une bonne mesure. On entendait ce matin Paul Magnette dire « Ben, c'est bête, ce gouvernement, il ne fait pas ce que moi j'ai fait quand j'étais au pouvoir. Moi, j'ai diminué la TVA. » Ben oui, mais elle est déjà au minimum, donc on ne sait pas la baisser davantage. Donc voilà, on a pris des mesures. Le « quoi qu'il en coûte » n'a pas été belgo-belge, mais nous sommes restés avec des mesures qui se sont inscrites dans la durée, là où ailleurs on a plus rapidement resserré la vis.
Ça, c'est un élément important.
À radio, on nous dit que j'ai deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que ça va beaucoup mieux. Et la deuxième, bonne nouvelle, bah, puisque ça va mieux, je vais augmenter les impôts. On le prendrait pour un fou. Non, bah, puis ça va mieux, je diminue les impôts. Donc il faut diminuer les impôts quand ça va mal pour soutenir l'activité, et il faut diminuer les impôts quand ça va bien. Donc il faut les diminuer tout le temps. Donc là, effectivement, il y a un souci de communication.
Un fonds, une réserve, justement, pour anticiper le pic de dépenses dues au vieillissement, qui n'était pas une surprise. Et puis ce fonds n'a pas été alimenté. Parce que crise 1, crise 2, crise 3. Et c'est quelque chose qui me dérange dans les discours aujourd'hui, c'est qu'on dit beaucoup il faut faire des efforts pour être prêt pour la prochaine crise. Mais quand est-ce qu'il y a un répit? En fait, il n'y en a pas. On est dans une crise permanente. Le système est en crise. Et donc, dire « Ah, maintenant, on ne va pas mettre de côté parce qu'il y a une crise ben », alors on ne mettra jamais de côté. Mm-hmm. Et donc, la facilité, c'est de prendre des mesures, on va dire, paramétriques. On va augmenter un peu la TVA, rallonger l'âge de la pension, raccourcir le temps d'allocation de chômage. Mais ce qui fait les meilleurs effets, ce sont des réformes plus structurelles. Ça va être investir plus dans la prévention, en santé, en sécurité, que dans la répression ou le soin. Ça va être simplifier les institutions. Ça prend du temps. Ceux qui vont prendre ces mesures-là, ils verront jamais les fruits avant les prochaines élections. C'est pas très incitant.
C'est une... beaucoup de Belges ont gardé une très bonne image de Jean-Luc Dehaene. Il serait là, il se présenterait aux élections et il aurait vraisemblablement un grand succès électoral, alors qu'il a pourtant été l'homme d'un assainissement budgétaire extrêmement fort, pour ne pas dire violent, dans les années 90. Donc il est des exemples, sans parler du sang et des larmes de Churchill, hein, mais donc il devrait être possible d'avoir un discours qui ne serait pas mortifère, mais qui serait difficile. C'est, je pense, un travail de communication, de pédagogie que nos hommes et nos femmes politiques se doivent d'avoir.
Par transparence.
projet qui faisait rêver, c'était l'Union européenne. Enfin, il y avait un projet positif. Ici, il n'y a pas de projet positif, à part avoir moins de dettes, mais ça fait rêver qui ? Enfin, c'est pas...
À l'époque, il était...
On ne sait pas. Enfin, c'est moins clair.
Alors, est-ce que Bardo Évore, Étienne de Calataille, n'est pas en train d'essayer pourtant de jouer un peu cette même musique qu'un Jean-Luc Dehaene à l'époque, en se présentant comme le Premier ministre qui a une vision de long terme? Il parle souvent d'une vision à 10 ans parce qu'il dit « moi, ce que j'essaye de mettre en place, c'est pas pour seulement cette législature-ci, c'est aussi pour la suivante. On va faire des efforts, mais après on ira mieux » et il reprend cette image du régime. Est-ce qu'il ne s'inscrit pas dans une même dynamique dans les choix qui sont posés ?
Il y a un discours dans le chef de M. de Wever qui ressemble à celui que l'on attribuerait à Jean-Luc Dehaene, cette posture par rapport à une certaine discipline budgétaire. C'est le cas. En matière de décision, il y a à boire et à manger. Si on prend la réforme des retraites, c'est quelque chose qui n'est pas populaire, qui rapporte surtout dans la durée et qui l'a néanmoins mise en œuvre. Donc, à cet égard, on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a eu le courage politique de prendre une mesure forte aux effets budgétaires pour l'essentiel différés dans le temps. Donc là, je trouve que ça, c'est à saluer intellectuellement. Une fois encore, on peut ne pas être d'accord avec les détails de la réforme. Et puis, il y a d'autres mesures qui semblent plus difficiles à comprendre, notamment quand on sait qu'il y a des dépenses fiscales que nous faisons qui ne sont pas vraiment efficaces en matière de recherche scientifique, en matière de la mesure zéro cotis. On a des gens qui nous... zéro cotisation sociale pour un preneur. L'évaluation n'est pas du tout positive et pourtant, on dit « ah ben on va quand même la conserver ». Alors ça devient du dogmatisme, ça devient plus de la réflexion.
Le problème, on se prive de recettes fiscales. Il y a aussi la question d'une taxation équitable entre les types de sources de revenus, du travail ou du capital. Des groupes d'experts ont beaucoup analysé la question, ont fait des recommandations qui n'ont jamais été suivies. Et le deuxième problème, je trouve, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Le fameux TINA, on fait croire qu'une série de mesures n'existe pas. Or, elles existent.
Ça veut dire quoi, par exemple ? Quels sont les...
Au niveau de l'OCDE, par exemple, la Belgique est championne en termes de subsides aux entreprises, sans réel engagement pour les effets que ça pourrait avoir. Il y a une taxation plus équilibrée du revenu du capital par rapport au revenu du travail. Il y a la suppression d'avantages fiscaux comme les voitures de société et la carte essence qui va avec, qui sont une hérésie par rapport à une période de dérèglement climatique ou par rapport à ce que font d'autres pays. Donc il y a une manne là qui n'est pas exploitée et dont on fait semblant qu'elle n'existe pas.
Étienne Decaux
prend des mesures comme les mesures en matière de flexi-job. Un économiste libéral, ce gouvernement est plutôt d'inspiration libérale, devrait souhaiter un abaissement généralisé des cotisations sociales, mais non pas la coexistence d'un régime où certains paieraient des grosses cotisations sociales et les autres beaucoup moins. Et absurdité dans l'absurdité, à l'intérieur du flexi-job, en fonction des secteurs, jamais un économiste libéral n'irait identifier tel secteur, l'aurait qu'en l'occurrence, a droit à un régime de faveur. Non, le régime libéral, c'est plutôt dire un impôt relativement bas, mais le plus homogène, sur la base la plus large possible, et que le meilleur gagne. Et ce qu'on a ici, c'est du fine-tuning, un pilotage fin qui a des connotations corporatistes.
Et donc, pour vous,
je pense qu'il est bon de rappeler que dans une comparaison internationale, la Belgique taxe plus et dépense plus, sans que nous ayons un niveau de qualité des prestations publiques en matière d'enseignement, de justice ou de santé qui soit à la hauteur de ce surcroît de dépenses. Donc il est a priori à penser que le premier effort est à faire du côté de l'efficacité de la dépense publique. Mais je pense, et là je m'écarterai de certains partis plus de droite, disent mais on ne va surtout pas toucher les impôts parce qu'on en paye déjà trop. Non, l'ordre des priorités à mon sens, c'est de mettre de l'ordre dans nos finances publiques. On peut penser d'abord en coupant dans les dépenses, mais à défaut de pouvoir le faire en dépenses, en ayant les recettes nécessaires, donc en relevant certains impôts. Et ce n'est que quand les déficits auront été réduits que l'on pourra envisager à baisser les impôts. Faire comme le gouvernement wallon, commencer par diminuer les droits d'enregistrement, alors que les économistes avaient dit, attention, vous savez, ça va se traduire dans le prix de l'immobilier. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, on peut commencer que les économistes, ça sert à rien. Mais dans ce cas-ci, ça ne servait pas tout à fait à rien. Le prix de l'immobilier en Wallonie a monté. Ben non, c'est pas une surprise. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Non. Et on a ce problème de finances publiques qui est un problème fédéral. Et on a parlé de Bardo Évore, mais il n'y a pas que lui. Au niveau wallon, bruxellois, de la communauté française ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est problématique, voire même davantage.
Donc pour vous,
un abaissement de la pression fiscale globale par rapport à une réforme. Une réforme, ça veut dire changer. Mais ça veut dire certains impôts qui montent, d'autres qui baissent. La consommation en Belgique est trop peu taxée, celle qui pollue beaucoup trop peu taxée. Le travail est vraisemblablement trop taxé.
Bon.
pouvoir d'achat des travailleurs et réduire les impôts sur le salaire, le gouvernement a prévu plusieurs mesures. D'abord, pour le salaire minimum, que le revenu brut soit égal au revenu net. L'Arizona entend aussi renforcer le bonus à l'emploi et réduire la cotisation spéciale de sécurité sociale, ce qui devrait augmenter le salaire net de tous les travailleurs. Mais la mesure principale repose sur un changement fiscal. Le gouvernement de Weaver veut faire grandir progressivement la part de revenus exemptés d'impôts. Pour l'année 2026, cette part a déjà grandi de 400 euros pour atteindre 10 910 euros. L'impôt a maintenant été repoussé à 2030, c'est-à-dire au début de la législature suivante. À cet horizon, la quantité de revenus exemptés d'impôts aura normalement grimpé jusqu'à 15 600 euros et le coût de cette mesure pour l'État est évalué à 4 milliards d'euros, ce qui, dans les calculs du gouvernement, devrait être financé par les rentrées de la taxe sur les plus-values. L'objectif est ici d'encourager les gens à travailler en revalorisant les bas salaires. Ce sont les fameux 500 euros de différence avec les allocataires sociaux, largement scandés pendant la campagne électorale.
Difficile, avec les crises en Iran par exemple, le prix de l'énergie. Et donc, des mesures peut-être qui vont coûter, par exemple pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, mais qui vont être annulées par les modérations salariales nécessitées par la crise, par les sauts d'index. Donc ça va peut-être être des mesures coûteuses, mais qui n'auront pas d'effet. Et donc oui, l'impression de pédaler face au vent est très forte à ce niveau-là. Donc oui, je crains qu'on ne va pas y arriver si on ne remet pas fondamentalement en question certains éléments. Et entre autres, quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est qu'on est fixé sur cet indicateur déficit sur PIB. Donc, on questionne pas beaucoup ce thermomètre-là qu'on utilise. Est-ce qu'il est pertinent? Une série de dépenses sont considérées comme mauvaises, dépenses sociales, dépenses en santé. Alors que, bon, on peut quand même questionner si c'est tout à fait négatif, ça souvent positif. C'est un investissement plus qu'une dépense. Le PIB, est-ce que ça a beaucoup de sens? Le PIB, plus on produit du jetable, plus le PIB augmente, plus on produit du durable, le PIB freine. Donc, il y a aussi ça qui compte. Est-ce que c'est vraiment sur base de cet indicateur qu'on veut faire tous nos choix de société?
Oui, c'est une...
Par quand, est-ce qu'il a une raison d'être? Qui l'a imposé? Est-ce qu'on peut le changer?
Étienne de Galataille?
Oui, mais il y a une limite à ce raisonnement qui est celle du taux d'intérêt que nous serions amenés à payer. Si ceux qui nous prêtent prennent peur, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais s'ils venaient à prendre peur et exiger des taux d'intérêt plus élevés, nous serions bien embêtés. Donc, on peut penser, ben oui, mais vous savez, nous, on a un gros déficit, mais c'est pour de bonnes raisons, c'est parce qu'on a investi notre éducation, notre santé, tchik et tchak. Si, de la part des bailleurs de fonds, c'est perçu comme étant, oh là là, mais ils sont incapables de me rembourser, alors il faut des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, nous serions très, très embêtés. Donc, malheureusement, quand on est dans une situation de déficit, dans une situation d'endettement, vous vous rendez tributaire de celui qui est disposé à vous prêter de l'argent. Et là, malheureusement, nous n'avons plus le contrôle, pas même sur la Banque centrale. La Banque centrale, elle est européenne. Donc, nous devons, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, on fait partie d'un club, le club européen, eh bien, nous devons d'accepter ces règles, même si elles ne sont pas les plus intelligentes.
Magali Vore.
Sont celles qu'elles sont, on est bien obligés, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir déjà à plus loin. Et c'est ça qui m'étonne qu'on n'en parle pas plus, parce que si on veut réfléchir plus loin, il faut en parler.
Nous sommes bien à la hauteur des enjeux de notre temps.